Mardi dernier, le Comité consultatif national d'éthique a rendu son avis sur la fin de vie. Dans la foulée, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une consultation citoyenne sur ce même sujet. Des débats seront donc organisés dans les espaces éthiques régionaux dans les territoires afin, je cite le président de la République, d'aller vers tous les citoyens et de leur permettre de s'informer et de mesurer les enjeux qui s'attachent à la fin de vie. Alors cette compréhension n'est possible qu'à condition de bien connaître chacun des termes utilisés par le CCNE. Et pour nous y aider, je reçois Raphaël Rouillet qui est nutritionniste en soins palliatifs et en oncologie à l'hôpital privé du Grand Narbonne et à l'hôpital Joseph Ducoing à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Avant d'entrer dans tous ces termes qu'on entend maintenant depuis une grosse semaine, voire plus, mais vraiment de façon plus intense, posons-nous cette première question. Le débat sur la fin de vie met en avant une séparation entre deux situations. Quelles sont-elles ?
Alors, dans cette question de la fin de vie, en fait, il y en a deux. Il y a, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a les personnes qui vont mourir et puis les personnes qui veulent mourir. Les personnes qui vont mourir, c'est celles qui sont en fin de vie et qu'on accompagne dans le cadre des soins palliatifs. Pour celles-là, on ne manque pas d'une loi, mais on manque de moyens. Alors que les personnes qui veulent mourir, là, à mon avis, c'est pas une question médicale, c'est une question vraiment de société, où il faut effectivement qu'on réfléchisse collectivement à ce qu'on veut pour envisager nos fins de vie. Les personnes qui veulent mourir, en fait, sont celles qui veulent anticiper leur fin de vie, alors que celles qui vont mourir, c'est celles qui sont en situation de fin de vie. C'est bien différent.
Et voilà une bonne différence à préciser. Le Comité consultatif national d'éthique indique qu'il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir à certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger. Qu'est-ce que cette aide active à mourir, Raphaël Rouillet ?
L'aide active à mourir, c'est un terme qui recouvre à la fois l'euthanasie et le suicide assisté. Alors l'euthanasie, c'est l'acte d'un soignant qui va provoquer la mort d'une personne en lui administrant à sa demande un produit létal. Et le suicide assisté, c'est la personne elle-même qui s'administre la dose létale au moment choisi. Alors dans le suicide assisté, elle a quand même besoin du concours d'un médecin puisque c'est lui qui va prescrire la dose létale en fonction évidemment d'une situation qui est vraiment débattue collégialement. Mais le soignant n'administre pas la dose létale.
Donc voilà cette première différence. Est-ce que on peut mettre dans le même dans le même sac, mais est-ce que aide active à mourir, assistance au suicide et suicide médicalement assisté, est-ce qu'ils recouvrent la même réalité?
La réalité, c'est vraiment d'aider les personnes à mourir, alors même que leur mort n'est pas encore imminente ou n'est pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que c'est vraiment les personnes qui décident qu'elles veulent anticiper leur fin de vie.
Ils sont pas en fin de vie, en fait.
Ils sont pas en fin de vie. Mais la vraie différence, encore une fois, c'est l'implication du soignant. Ça, c'est l'histoire de l'omelette au lard. Dans l'omelette au lard, pour faire une omelette au lard, il faut des œufs et il faut du lard. La poule donne ses œufs, elle est concernée. Le porc donne son lard, il est impliqué. Voilà. Et les soignants ont pas du tout envie d'être impliqués dans l'administration du produit létal parce que leur vocation, c'est d'accompagner, de soigner et pas de donner la mort. Parce que la mort n'est pas un soin.
On l'a bien vu la semaine dernière, puisque l'Ordre des médecins s'est déclaré n'être pas favorable à une légalisation de l'euthanasie.
Absolument.
À qui serait ouverte l'aide active à mourir ? Puisque le Comité consultatif national d'éthique donne des conditions, des limites strictes, à qui serait-elle ouverte ?
À ceux qui en font la demande, sur les bases d'une souffrance réfractaire, intolérable, mais qui ne serait pas forcément en fin de vie.
Le Comité consultatif d'éthique parle de souffrance physique, psychique ou physique ou psychique réfractaire. Elle parle de maladies graves et incurables et aussi de pronostic vital qui est engagé à moyen terme. Est-ce qu'on peut dérouler un petit peu ces termes parce que là aussi, ça peut être un peu flou. Qu'est-ce qu'on appelle maladie grave ou incurable ?
Une maladie qu'on ne sait pas encore soigner et qui va sans doute avoir pour conséquence la mort. Et là, ce qui est important d'entendre, c'est le moyen terme. C'est-à-dire que dans le moyen terme, il n'y a pas d'imminence de la mort. Dans le cadre des soins palliatifs et la loi Leonetti, Les médecins accompagnent, les équipes soignantes accompagnent les personnes qui vont mourir. Elles ont recours parfois à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ça, c'est dans la loi Leonetti.
Oui, on va y venir.
Et le cadre est totalement différent. Là, dans la proposition de l'aide active à mourir, la personne doit évidemment être éclairée, faire une demande répétée. La personne doit être consciente de sa demande.
Majeure.
Mais elle doit être majeure aussi, et effectivement. Mais l'imminence de sa mort n'est pas un critère.
Et des souffrances physiques réfractaires, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, dans le terme de souffrance, il faut entendre plusieurs choses. La souffrance, c'est la douleur physique, ça on le comprend tous, mais c'est aussi la souffrance psychologique, spirituelle, sociale, et ce sont toutes ces souffrances-là qui font une souffrance générale, globale de la personne, et qui rentrent en compte.
Par exemple, cette douleur, cette souffrance qu'expriment certaines personnes en fin de vie de ne pas vouloir être un poids pour la société ou pour leurs proches, ça peut rentrer dans la souffrance.
Alors ça rentre dans la souffrance, mais là vous parlez de personnes en fin de vie. Effectivement, si jamais on légalise l'euthanasie, les personnes vont pas être obligées d'accepter l'euthanasie, mais par contre elles vont toutes être obligées de l'envisager. Et pour une personne qui est fragile, parce que justement en fin de vie dont le pronostic vital est engagé à moyen terme, elle va peut-être effectivement se poser toutes ces questions, et c'est un poids à mon avis trop lourd à leur faire porter, et c'est trop de responsabilité à la fois pour le soignant et à la fois par la personne qui se sent concernée.
Vous avez évoqué la loi Claeys-Leonetti qui a été votée en 2016. Elle a autorisé la possibilité d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Les conditions nécessaires pour y avoir recours sont-elles différentes de celles citées par le Comité consultatif national d'éthique au sujet de la loi active à mourir ? Est-ce qu'il y a des nuances ?
L'énorme différence quand même qu'il faut comprendre, c'est que là, il n'y a pas de produit létal. En fait, dans la sédation profonde et continue, qui est reconnue par la loi Claeys-Leonetti, on associe des analgésiques et des produits sédatifs avec l'arrêt des traitements quand on est en présence d'une situation de souffrance vécue comme insupportable et inévitable, alors que le décès est imminent et inévitable. Et ça suit une procédure collégiale, mais en tout cas, à aucun moment il est question de doses létales. C'est-à-dire que les produits sédatifs et analgésiques vont soulager immédiatement les souffrances, et même si ceux-ci peuvent avoir comme effet d'abréger la vie, à aucun moment le but est de provoquer la mort. Comme c'est le but d'une substance létale.
Donc l'intention n'est pas de donner la mort, mais de soulager la souffrance.
Tout à fait.
En fin de vie, quand la mort est vraiment imminente, c'est ça ce que vous dites.
Tout à fait.
D'accord. C'est ce qu'a prévu cette loi Claeys-Leonetti. Est-ce qu'il y a des maladies pour lesquelles la sédation profonde et continue jusqu'au décès n'est pas possible ?
Oui, certainement. En fait, là, on parle vraiment de. C'est pas dans le cas de la maladie, en fait, qu'on regarde ça. C'est vraiment la sédation, elle n'est envisageable et envisagée déjà que sur la demande du patient lui-même. Et s'il est inconscient, on va se référer à ses directives anticipées ou à sa personne de confiance qui va avoir, qui va porter l'avis de cette personne si elle peut plus s'exprimer. Les médecins vont être contraints de tenir compte de cet avis. Mais par contre, la personne de confiance qui est nommée par le patient avant d'être en incapacité de s'exprimer, elle a un rôle de témoin, mais elle n'a pas un rôle décisionnaire. La décision appartient à un collège de médecins et de soignants qui vont décider ensemble de ce qu'il faut mener comme accompagnement pour la personne. Et en tout cas, le critère, c'est la souffrance réfractaire et insupportable du malade en phase terminale et quand le décès est imminent et inévitable. Voilà.
Donc ça peut réfractaire, ça veut dire qu'on ne peut pas la soigner, on ne peut plus la soulager par des moyens ordinaires, et donc on propose cette sédation profonde et continue jusqu'au décès. Vous êtes donc dans un service de soins palliatifs, Raphaël Rouillet. Est-ce que ce recours à la sédation profonde et continue jusqu'au décès est satisfaisante ?
Oui, tout à fait. Mais moi, j'interviens surtout dans un service de jour où on accueille des personnes qui sont pas en fin de vie, qui sont des personnes qui peuvent être en situation palliative, et on leur apporte des soins de support, c'est-à-dire des soins qui leur permettent de vivre confortablement avec leur maladie qu'aujourd'hui on ne peut pas soigner. Il y a aussi des personnes qui sont en parcours oncologique. Donc ces services s'appellent Passe-temps pour Narbonne et puis les Parenthèses pour Toulouse, où on accompagne vraiment les personnes dans leur combat contre la maladie et pour accéder à la meilleure qualité de vie possible. Mais là, dans nos services, en tout cas, de soins de support, il n'est absolument pas question de sédation profonde.
Mmh. Oui, c'est pas le lieu. La loi du 2 février 2016, donc cette fameuse loi Claeys-Leonetti, met aussi à disposition les directives anticipées et la désignation d'une personne de confiance, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour permettre à chacun d'exprimer ses volontés. Qu'est-ce qu'on peut exiger dans le cadre de ces directives anticipées ?
On peut rien exiger. En fait, les directives anticipées, tout le monde peut les rédiger à condition d'être majeur. Dans ces directives anticipées, on peut donner nos souhaits sur comment on veut envisager notre fin de vie. Et ces directives anticipées, bien sûr, elles sont révocables et réversibles à tout moment. On peut les réviser aussi ou les annuler. Enfin voilà. Et on les donne à l'équipe médicale si on est déjà concerné par la maladie ou à une personne de confiance qu'on a désignée et consignée aussi dans ces directives anticipées.
Mmh. Et ça, c'est vous le voyez dans les soins palliatifs, ça fonctionne. Et est-ce que le médecin, le professionnel de santé a quand même le dernier mot si une personne dit dans ses directives anticipées je ne souhaite pas tel soin, est-ce que le médecin peut dire en fait si vous en avez besoin?
Aujourd'hui en France, oui, c'est le médecin, c'est collégialement, pas le médecin, mais oui. Les médecins et l'équipe soignante qui vont décider de ce qui est le mieux pour le patient. Mais il est contraint de tenir compte de ces directives anticipées. Et on utilise les directives anticipées que si le patient n'est plus en mesure de s'exprimer.
Alors, une autre disposition de la loi Claeys-Leonetti réaffirme l'interdiction de l'obstination déraisonnable. Est-ce que c'est la même chose que l'acharnement thérapeutique ?
Oui, c'est la même chose. En fait, cette loi Leonetti, elle nous permet de borner les choses entre deux bornes, qui est d'un côté le non-abandon du patient et de l'autre côté le non-acharnement, la non-obstination déraisonnable. Et donc, c'est parfois au nom de ce refus d'obstination déraisonnable que l'on met en place la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est-à-dire qu'on soulage les souffrances jusqu'à ce que la personne décède. Et on ne provoque pas, encore une fois, la mort avec un produit létal.
Mmh. Ouais. Dans votre activité qui est là aussi pour soulager et puis pour prendre soin de la personne, est-ce que vous avez des demandes d'euthanasie ?
Dans notre service en particulier de soins de support, non, puisque ce sont des personnes qui sont souvent qui vivent à domicile et qui viennent passer la journée avec nous et dont les souffrances sont accompagnées justement on n'a jamais ce genre de demande. Il arrive que les personnes dans les services de soins palliatifs proprement dit, où les personnes sont beaucoup plus près de leur fin de vie, et il arrive qu'il y ait des demandes de soulagement, mais là c'est généralement quand ces souffrances sont accompagnées, la personne ne demande pas qu'on abrège leur vie. Et le docteur Claire Fourcade, avec lequel je travaille à Narbonne, dit souvent que dans son service, les personnes ne demandent pas à mourir dans la dignité, mais à vivre dans la dignité. Et c'est notre combat, en fait, tous les jours, de faire en sorte que les personnes vivent dans la dignité. Parce que les soins palliatifs sont un lieu de vie, un concentré de vie. On n'a pas de temps à perdre, il faut absolument que les personnes puissent vivre leur vie le plus intensément possible et avec une qualité la meilleure possible. C'est notre métier.
C'est votre métier. Merci beaucoup Raphaël Rouillet d'avoir éclairé ce matin nos auditeurs sur tous ces termes, tout ce débat qui s'ouvre maintenant sur la fin de vie. Et rassurez-vous, chers auditeurs, Radio Présence consacrera d'autres émissions sur ce sujet parce qu'il est vaste et pointu. Merci à vous.
Merci.